Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Hugues, on parle d'un succès phénoménal.
Phénoménal.
Phénoménal cette semaine. On parle de l'AMC Pacer. Pour ceux qui ne voient pas la voiture dans leur tête et qui ont vu le film Wayne's World, c'était la Garde mobile.
Exactement.
Alors, cette voiture-là a été significative pour l'industrie automobile américaine dans les années 70. Mais il y a une histoire fascinante qui l'entoure.
Absolument. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour concurrencer un rival qui a les poches beaucoup plus profondes que vous?
C'est-à-dire n'importe qui.
N'importe qui d'autre.
American Motors, dans ce temps-là, c'était...
Son surnom, c'était le quatrième des trois grands. Donc, ça en disait déjà pas mal.
Ou, au Québec, on appelait ça le American Bâtard.
Ah oui, intéressant. en fait, dans les médias, on fait de la contre-programmation, une approche qui consiste à ne pas s'attaquer directement face à des émissions poids lourds. Chez AMC, on va développer la philosophie de la différence qui consiste à trouver des solutions originales à moindre frais et lancer des produits suffisamment décalés pour ne pas affronter de face Ford, GM ou Chrysler.
Ouais. Bon, mais dans quel contexte cette voiture-là a été imaginée?
Alors, ça commence en 1971. La première crise du pétrole n'a pas encore eu lieu, mais déjà les nuages s'amoncellent sur l'industrie automobile sous la forme de nouvelles normes de sécurité et de pollution. Gerald Meyers, le chef de développement produit pour AMC, réfléchit à l'avenir. Il pense qu'AMC peut redevenir le leader dans le segment des autos compactes et il envisage un véhicule avec un grand espace intérieur, une excellente visibilité, une bonne tenue de route et, pourquoi pas, un groupe motopropulseur révolutionnaire. Le projet Amigo est lancé. Les premières esquisses sont réalisées au studio de design avancé de Chuck Machigan.
Ouais.
Plusieurs idées sont évaluées, mais l'une se dégage rapidement du lot. On retrouve déjà à l'arrière les formes quasi définitives de la Pacer, avec de larges surfaces vitrées. L'avant est par contre beaucoup plus court et plus plongeant, avec, sur certaines maquettes, des phares escamotables.
Ouais.
Alors, tout ceci est rendu possible grâce à l'utilisation d'un moteur compact, on va y revenir plus loin. Et ensuite, le projet passe au studio des véhicules compacts, dirigé par Bob Nixon, sous la houlette du designer en chef de AMC, Dick Tighe.
Bon, ça se passe pas exactement comme on a voulu, notamment parce que il y a une compagnie qui s'appelle General Motors qui va couper les vivres à AMC.
Exactement. Les problèmes vont s'accumuler. Premier problème, les avocats demandent que l'auto soit élargie et reçoivent des protections additionnelles en cas d'impact latéral en prévision des futures normes de sécurité que le gouvernement envisageait déséquilibrant les proportions du véhicule. Deuxième problème, la motorisation. AMC a choisi un moteur rotatif, une solution très en vogue au début des années 70.
Puis il faut mettre la chose en contexte. Un moteur rotatif, à l'époque, il y avait NSU qui avait utilisé ça. Mazda l'utilisait depuis quelques années, mais c'était tout. Et
il y avait plusieurs compagnies qui avaient acheté la licence en Europe. Ouais. Citroën, GM.
Citroën dans la GS.
Exactement, la GZ.
OK.
Et donc, c'est un moteur qui est plus compact à puissance équivalente qu'un moteur à 4 temps conventionnel. Mais AMC n'a pas les moyens de développer toute seule cette technologie. Alors, elle s'associe avec General Motors.
Ouais.
GM avait acquis la licence Winkle en 1970 et avait commencé les études de moteur à 2 et 4 rotors. AMC était censé installer un bloc de rotors code RC2-206 sous le capot de la Pacer. Mais GM rencontrera d'importantes difficultés de développement, tant au niveau des émissions, de la consommation, que de la fiabilité. Et quand il devint évident, courant 73, que GM ne pourrait pas fournir de rotatif à AMC, la marque dut se tourner en urgence vers son 6 cylindres, le 600 lignes de base, obligeant de redessiner et de reconcevoir toute une partie de l'avant. La cloison pare-feu fut modifiée pour pouvoir reculer le bloc classique au maximum. Le réglage des suspensions est aussi entièrement revu. Quant à GM, elle renonça officiellement au rotatif le 24 septembre 1974.
Et ça devait aller dans les Vega, dans les Astres notamment. Là.
Jusque dans les Corvettes?
Mais le moteur, le moteur initialement avait été acheté ou développé dans l'optique de mettre ça dans des voitures compactes.
Tout à fait.
Un moteur rotatif, par définition, c'est une mécanique qui est plus performante avec une plus petite cylindrée, mais qui a le désavantage de consommer beaucoup, consommer de l'huile aussi. Alors, ça ne rencontrait pas les normes qu'on voulait. Puis, évidemment, rendre ça fiable, c'est
la consommation était énorme, ouais. Et la première crise du pétrole était passée par là.
C'est ça.
Donc là, tout était fini. Donc après le deuxième problème de l'automatisation, troisième problème, la production. La production devait commencer à l'usine de Kenosha dans le Wisconsin dès août 1974, mais une grève obligea AMC à ne démarrer l'assemblage qu'en janvier 1975.
OK. Évidemment, cette voiture-là a été publicisée de façon très originale. On la vendait comme la grande petite voiture. Elle avait un design très audacieux. Mais la voiture a été accueillie sur le marché de façon mitigée. Peut-être qu'on peut dire ça comme ça, là.
La voiture est présentée au public le 28 février 1975. Et là, la presse titrera soudainement, c'est 1980. Il faut dire que l'auto a des proportions uniques pour l'époque.
Ouais.
Par rapport à la MC Gremlin, qui est déjà sur le marché depuis 1970, elle est à peine plus longue, mais elle est beaucoup plus large, de 17 cm. Elle présente une large surface vitrée qui représente 37% de la surface totale de l'auto. C'est 50% de plus qu'une voiture équivalente,
ouais,
dans la concurrence. La ceinture de caisse est tellement basse que les contre-portes sont rehaussées,
ouais,
pour le confort des occupants. Autre originalité, la porte passager est plus longue de 10 cm pour faciliter l'accès aux places arrière. L'espace intérieur est aussi un gros point fort de la Pacer. Ses codes d'habitabilité sont similaires à celles de la Cadillac Eldorado, qui est pourtant 1,35 m plus longue.
Bon, et pour en posséder une, je peux te dire qu'il y a énormément d'espace dans cette voiture-là.
Absolument. Il y avait des publicités qui roulaient où on voit une Chevrolet Nova 75 rentrer dans une maquette, s'insérer dans la maquette de la Pacer pour montrer qu'on pouvait faire rentrer une voiture classique en largeur dans une Pacer. C'est dire s'il y a du volume.
Mais le petit désavantage du 37% de surface vitrée, quand t'as,
ouais,
pas de climatisation, c'est qu'il fait chaud là-dedans.
C'est un four. C'est aussi simple que ça.
Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, cette voiture-là a été accueillie de façon assez spéciale. Les, mm-hmm, gens, certains adoraient, certains détestaient. Mais la mécanique de cette voiture-là ne faisait pas nécessairement l'unanimité, parce que l'objectif d'une voiture compact, c'est d'être économique, et le 6 cylindres en ligne, c'était pas exactement le cas.
Ben non, parce que maintenant que le rotatif est parti, ils se retournent sur quelque chose qu'ils ont en stock, et c'est un 6 cylindres 3 litres 8 qui date de 1964 et qui développe seulement 100 chevaux. Il y a aussi un 6 cylindres de 4 litres 2 qui développe 110 chevaux en option. Et tous deux bénéficient quand même de l'allumage électronique. Côté transmission, c'est pas super innovant non plus. Il y a une manuelle 3 rapports avec levier au volant qui vient de série, alors qu'une manuelle 3 rapports avec levier au plancher est disponible, ou une automatique à 3 rapports fournie par Chrysler.
Aimerais-tu ça, Vincent, magasiner une voiture aujourd'hui et choisir entre un levier de vitesse à la colonne ou au plancher 3 vitesses manuelles?
Quoi, il n'y a pas de CVT?
Non, il n'y avait pas de ça.
Et non...
CVT avec un rotatif, ça existe-tu, ça? Je ne sais pas si techniquement ça se peut.
Bah, techniquement, oui, il n'y a pas de raison, mais a priori, je ne penserais pas.
J'ai jamais vu ça, moi.
C'est assez criard.
Hein? C'est, oui.
Ça doit être assez, ouais, marrant, parce que la CVT, là, il faut la calibrer pour aller chercher des tours, ouais, alors qu'en fait, elle est en général calibrée pour être, ouais, relativement
ça
basse dans les
pas,
rotations.
En fait. C'est, ouais, c'est...
Ça serait assez. Ça, comme tu dis, ça ferait du boucan pas mal.
Ouais, c'est ça. Bon, donc c'est ça. Revenons au 6 cylindres.
Alors ensuite, ben, techniquement, l'une des seules originalités de la voiture, c'est la direction à crémaillère.
Oui.
Et pour obtenir les freins à disque, la boîte automatique, la direction assistée, la barre anti-roulée à l'avant, tout ça, c'est de l'option. Et comme tu disais, autre option indispensable, la climatisation. Le prix de base était de $3,995. Il y a un groupe optionnel X à caractère sportif, faut, ouais, vite le dire avec les guillemets, qui offre des sièges baquets, un levier de vitesse au plancher, un volant sport, de l'insonorisation additionnelle, des roues à 5 branches et la barre au tirouli à l'avant. Il y a aussi un groupe optionnel Deluxe, DL, qui donnait droit à des baquets inclinables avec un tissu exclusif, une finition au faux bois du volant et de la planche de bord, un tapis de coffre, l'ensemble des corps et de l'insonorisation additionnelle.
Bon, la voiture va relativement bien se vendre au début, mais les ventes vont rapidement s'estomper, là.
Ben, c'est ça. À la présentation, les clients se précipitent en concession et AMC doit revoir à la hausse ses capacités de production. À la fin du millésime, la marque a fabriqué 72 158 exemplaires, ce qui est pas mal du tout avec une arrivée tardive sur le marché. Et en fait, la marque n'arrive pas à répondre à la demande. La crise du pétrole avait heurté de plein fouet AMC. L'introduction de l'épaisseur avait coûté cher à la compagnie,
ouais.
Qui connaîtra des pertes importantes en 1975. Mais avec un tel succès entre les mains, les dirigeants d'AMC se disent que le retour à la rentabilité sera rapide, puisque là, la voiture part.
Puis on est en 1975... Ce sont les dernières années de la Gremlin. On est en train de travailler sur ce que deviendra la Spirit. Ouais. Les autres modèles vieillissent essentiellement. Là. Tout est vieux chez AMC à cette époque-là.
Pas mal.
Ouais.
Et alors, au départ, la production en 76, elle monte, 117 244 exemplaires. Mais en fait, c'est dû à la forte demande de l'année d'avant qui n'avait pas été comblée.
Ouais.
Et dans les faits, le trafic déjà dès 76 dans les salles de montres est en baisse. Et les ventes commencent à s'en ressentir durant et à la fin du millésime.
Bon, 77, 78, 79, il y aura des évolutions, des changements esthétiques, l'arrivée d'une version familiale aussi, deux portières, là, mais familiale quand même.
Exactement, elle arrive dès le millésime 77, elle offre un porte-à-faux arrière allongé de 10 cm, ce qui permet de faire passer le volume de chargement de 835 à 1354 litres. Les versions familiales de luxe ont droit à des appliques en faux bois. La familiale deviendra instantanément plus populaire que le coupé, et ce jusqu'à la fin de la carrière de la Pacer. Autre nouveauté, le 4 litres 2 disparaît et les moteurs restants sont donnés pour 88 et 114 chevaux. Les freins à disque deviennent standards et une sellerie Levi's est disponible en option. AMC testera un temps des versions avec le 4 cylindres Audi monté dans les Gremlins depuis 1977, sans succès parce que l'auto était beaucoup trop lourde pour le moteur.
Ouais, absolument.
Malgré les nouveautés, la production prend un sérieux coup, 58 254 exemplaires. Et là, AMC en 77 commence à être dans une situation financière difficile et on commence un petit peu à évoquer la disparition de la marque. 1978 marque l'arrivée du V8 de 304 pouces cubes. Je ne sais pas quelle version tu as, toi.
T'as moi, 6 cylindres en ligne.
D'accord.
Ouais. C'est ça.
V8 304 pouces cubes, 230 chevaux, nouvelle calandre agrandie justement pour accommoder le V8. La gamme est simplifiée, les versions DL deviennent le modèle de base, le groupe X est remplacé par un ensemble sport et les ventes continuent à dégringoler littéralement puisqu'il n'y a que 21 231 exemplaires produits avec seulement 2514 V8. Donc ça, si vous êtes un amateur de Pacer, ça ne va pas être facile d'en trouver une avec un V8.
Surtout un modèle 1980 parce qu'en 1980, les productions, ça s'est compté par quelques...
Non, on va y venir.
OK, on n'est pas on encore là. 80, c'est l'année... C'est la... Moi, c'est un modèle 79 que j'ai. Familiale, et évidemment, comme tu l'as dit, la familiale avait été plus populaire que la version hatchback traditionnelle cette année-là, puis pour les quelques années qui précédaient. Mais dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens, c'est la bulle ronde qui a été beaucoup plus populaire.
C'est la première arrivée.
Tu sais, puis à toutes les fois, les gens me disent « Ah, c'est la première fois que je vois une Pacer familiale ou c'est de cette forme-là. » Et pourtant, pendant 4 ans, ça a été le modèle le plus vendu.
Absolument.
Mais les ventes étaient si faibles par rapport à la première et à la deuxième année.
Je pense qu'ensuite, l'image qu'on a fait persister dans l'inconscient collectif de la Pacer, c'était la bulle.
Ah ouais, c'est ça.
La Garth Mobile, c'est pas une version familiale, c'est une version avec la bulle.
Et il faut souligner que le distributeur de réglisse n'était pas offert de série.
Absolument
pas. Il n'était pas offert en option non plus. Ça, c'était l'imaginaire des producteurs de télé.
Exactement. Donc là, on est rendu en 79.
Ouais.
Le 6 cylindres de base disparaît et le V8 ne développe que 125 chevaux. Le modèle de base devient la DL. Une version limited est ajoutée. Elle comprend l'intérieur en cuir, le confort électrique, le volant inclinable et la radio AM de série. Rien n'y fait, comme tu viens de le dire, la Pacer sombre, 10 215 exemplaires produits en 79. L'année 79 voit le début de l'association avec Renault. La Pacer n'intéresse plus personne chez AMC, à tel point que le millésime 80 s'arrête abruptement le 3 décembre 79, après seulement 1746 exemplaires produits. Okay. Donc, trouver un millésime 80, c'est quelque chose.
Surtout une édition canadienne.
Maison.
Alors, ça, c'est très rare.
La voiture qui était censée nous donner un avant-goût des années 80 ne connaîtra pas les années 80.
Bon, alors ça a été une voiture qui a fait jaser énormément.
Oh là oui.
Mais ça n'a pas été un success story.
Non.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est une belle curiosité.
Absolument.
Et c'est peut-être pour ça que je l'ai acquise.
Et voilà.